Salut, c'est Pierre et vous écoutez Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de grands clubs, journaliste sportif, entrepreneur, politique, investisseur, je rencontre avec vous des femmes et des hommes qui s'engagent dans le monde du sport. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Dream Team, c'est le meilleur terrain de jeu pour comprendre les acteurs et les enjeux de cet écosystème qui fait tant rêver. Je m'appelle Pierre Moreau, passionné de sport depuis toujours, et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un format Big Boss avec le Big Boss en charge de la grande cause nationale de cette année, de 2024, qui est la cause pour le sport. On va y revenir en long et en large. Merci Vincent d'avoir accepté mon invitation.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Ben écoute, je suis ravi qu'on aborde cette grande cause nationale de 2024, qu'est le sport, dans une année évidemment olympique. Ton rôle, c'est d'être délégué ministériel en charge de cette grande cause nationale. Mais avant de faire ça, tu as eu tout un parcours, notamment politique, mais aussi un petit peu dans le sport. On y reviendra. Mais je te propose du coup de commencer par la première question, à savoir comment on s'entraîne à devenir Vincent Roger. En d'autres termes, un peu nous expliquer ton parcours et ton cheminement jusqu'à aujourd'hui.
Alors, c'est un parcours absolument pas préparé, puisque je suis issu d'un milieu social assez modeste, voire très modeste. Et donc, je ne m'étais absolument pas préparé dans mes jeunes années. Alors, j'étais certes passionné d'histoire, mais je ne m'étais pas préparé à rentrer dans l'action publique, à connaître des personnalités importantes. Et c'est vraiment le hasard de la vie qui a fait que très jeune, j'ai rencontré Philippe Séguin. Il avait comme lieutenant à l'époque un certain François Fillon avec lequel j'ai travaillé pendant des années. Par une succession de rencontres. Après, j'ai rencontré Jean-François Lamour, avec lequel j'ai fait beaucoup
ensemble
de choses,
des sports,
et notamment
ouais.
dans le domaine du sport. Il en est de même, d'ailleurs, pour Amélie Oudéa-Castéra, que je ne connaissais pas il y a quelques années, et que j'ai rencontré avant les présidentielles, avec laquelle je me suis très bien entendu, merci. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, la vie, c'est une succession de rencontres et que le côté « je prévois ce que je vais faire dans 2, dans 3, dans 10 ans », déjà à mon époque, c'était difficile, mais je pense que ça a totalement disparu parce que le monde varie si vite. Il y a tellement de bouleversements, tellement de changements. Donc voilà, c'est une succession de rencontres, d'événements qui ont fait... par exemple, j'ai travaillé avec Jean-François Lamour parce que François Fillon avait été viré par Villepin en 2005 du gouvernement et que Jean-François m'a appelé pour me proposer de venir travailler à son cabinet. Mmh. Si Fillon n'avait pas été viré du gouvernement, j'aurais peut-être pas travaillé avec Jean-François Lamour. Et du statut de collaborateur de Jean-François, je suis devenu un de ses amis réciproquement. Mmh. Donc voilà, la vie est comme ça.
Ouais. La vie politique est comme ça parce qu'elle est soumise aux aléas politiques.
La vie tout court. D'ailleurs, ouais. Je pense que la vie politique se ressemble à la vie tout court. Je pense que le monde de l'entreprise, le monde du showbiz, le monde artistique, le monde universitaire, tout le monde a ses codes, mais voilà, il y a des gens avec qui on s'entend, des gens avec qui on ne s'entend pas, il y a des rivalités. Je ne crois pas que le monde politique soit totalement à part du reste du monde.
Ouais.
Il a ses codes, c'est sûr, il a sa dureté, ça c'est sûr aussi.
Ouais, on le vit pas mal en ce moment. Tu t'es assez rapidement orienté vers le monde politique ou l'action publique. Pourquoi ce choix? Et derrière ma question, c'est... C'était quoi un peu tes premiers souvenirs de sport? En quoi le sport a été déjà présent peut-être dans ton enfance, dans ta construction professionnelle, éducation?
Alors, les deux ont été présentes dans mon enfance pour... parce que comme je disais tout à l'heure, j'étais passionné d'histoire, donc il y a quand même un lien entre avoir un intérêt pour la chose publique et être passionné d'histoire. J'étais passionné par l'histoire du gaullisme, par les mouvements liés à la résistance. Et naturellement, je me suis tourné vers le mouvement qui, à l'époque, le mouvement politique qu'il incarnait le plus. Je ne dis pas qu'il était le seul, mais où il y avait encore quand même des personnages liés à l'histoire du gaullisme, comme Pierre Bespère, Jacques Chaban-Delmas. place. Donc ce mouvement était le RPR. En parallèle, j'ai toujours été un fou de sport. J'ai toujours considéré que l'équipe était la bible quotidienne. Voilà, je suis un grand passionné de foot, mais pas que. J'ai vécu mon enfance en préparant les examens, en regardant Roland Garros, comme beaucoup d'entre nous, en vivant l'Euro avec Platini en 84, les Jeux Olympiques, d'ailleurs les Jeux où, en 84 comme en 88, où Jean-François Lamour a plus que performé en étant champion olympique. Voilà, j'ai plein de souvenirs. Et je crois que pour chacun d'entre nous, le sport, c'est un peu une Madeleine de Proust. On a tous des souvenirs qui ont marqué notre enfance liée au sport. Il y a Renaud Dely qui récemment a sorti un livre sur Pierre Quinon qui s'appelle Le Grand Saut, qui est un livre que je conseille. Il commence son livre en racontant quand Pierre Quinon gagne la finale du saut à la perche aux Jeux Olympiques de 84. Et il dit « je me rappelle de son regard ». Eh bien, moi, je me rappelle du regard de Pierre Quinon. Ça m'avait marqué au moment où il explose après son saut. Donc voilà, c'est ça la force du sport. C'est que 40 ans, 50 ans après, on se rappelle de choses qui nous ont marqué, qui nous ont donné une émotion particulière.
Ouais. Donc, tu fais le constat que le sport est d'une importance fondamentale. C'est la Madeleine de Proust. Il habite chacun d'entre nous. Tu as été au contact de dirigeants politiques de premier rang, de grande envergure. On peut parler de Philippe Séguin, qui était un grand fan de football.
Exactement. Qui avait une culture footballistique
exceptionnelle.
Ouais. Et il m'est arrivé de faire des concours avec lui sur la connaissance du football. Je dois bien avouer qu'il me battait à chaque fois. Ouais. Il avait une culture, d'ailleurs, d'ensemble exceptionnelle. Il était passionné de cinéma, passionné de littérature. Mais c'est la personne que j'ai connu qui avait la plus grande culture footballistique jamais égalée.
Ouais. Et ma question derrière tout ça, c'est que finalement, les politiques ou ces politiques que tu cites se sont pas forcément distingués par une politique offensive sur le sport, si je ne m'abuse.
À l'exception de Jean-François Lamour.
À l'exception de Jean-François Lamour qui était ministre des Sports.
Voilà, qui était ministre
des
Sports.
Mais pourquoi, comment t'expliques que le fait sportif, la chose sportive, n'ait pas été spécialement prise d'assaut par, en l'occurrence, les gouvernements Sarkozy, Chirac, en tout cas, notamment la droite. Je ne suis pas en train de comparer par rapport à la gauche, mais toi qui as une vision aussi du fait politique et des hommes politiques, pourquoi ce n'est pas un sujet qui se sont davantage appropriés par le passé? Alors oui, cette année, plus que jamais, on a une ministre qui est experte sur le sujet, on a les Jeux Olympiques, on va y revenir. Pourquoi pas avant?
Alors déjà, il y a eu des ministres qui ont essayé de faire bouger les lignes. Jean-François Lamour, par exemple, a fait bouger les lignes sur le financement des équipements de proximité, sur la lutte contre le dopage. Donc il y a eu quand même des évolutions depuis Herzog, qui avait été nommé ministre des Sports par le général de Gaulle, notamment au lendemain des résultats catastrophiques des Jeux de Rome en 60. Mmh. Et c'est à partir de 1960, avec la création de l'INSEP, avec les lois Herzog, puis les lois Mazo, que progressivement les choses ont évolué, notamment pour l'accompagnement du haut niveau. Après, on est dans un pays où l'essentiel de l'action sportive est mené aussi par les collectivités locales. 80% des établissements sportifs, des équipements sportifs, les collectivités en sont propriétaires. Donc il y a une organisation française qui est assez particulière. Dans certains pays, c'est l'État qui décide de tout. Heureusement, en France, c'est pas le cas. Il y a les collectivités, il y a le mouvement sportif, il y a énormément d'acteurs.
Il y a l'Agence nationale du sport maintenant.
Il y a l'Agence nationale du sport qui a été créée suite à l'élection de l'actuel président de la République en 2017. Donc il y a de nombreux acteurs. Il y a eu une vraie volonté d'ailleurs à ce sujet de la part d'Amélie Oudéa-Castéra de donner la bonne feuille de route à chacun pour qu'on sache ce que fait l'ANS, ce que fait la direction du sport du ministère. Et les choses sont maintenant vraiment clairement établies. Mais pour répondre à ta question...
Je me permets, ne te méprends pas sur mon propos. Je pense qu'on a eu des grands ministres des sports. Mmh. On peut citer aussi Valérie Fourneyron,
Marie-Georges Buffet. Valérie Fourneyron, qui est très engagée dans la grande cause nationale, d'ailleurs.
Ouais. Tu m'expliqueras comment. Elle est passée sur le podcast et j'en profite pour la saluer. Mais donc, en effet, on a eu des gens et des ministres des sports assez compétents la plupart du temps. mais je te parle des hommes comme Philippe Séguin, comme Jean-François, oui, comme alors, Fillon, c'est... qui sont des gens qui ont été premiers ministres et qui ont fait vraiment la politique française pendant des années.
Mais ces deux cas, et notamment le premier, Philippe Séguin, par exemple, a été extraordinaire comme maire d'Épinal sur le sujet. C'est-à-dire l'aménagement des rythmes scolaires par rapport au sport, l'implantation d'équipements sportifs à Épinal. Au début des années 80, Épinal est la ville la plus sportive de France. Et c'est grâce à son maire. Et en l'occurrence, ce maire s'appelle Philippe Séguin. Donc voilà, c'est aussi le niveau national et le niveau local. Comme par exemple, François Fillon faisait beaucoup de choses comme président de la région des Pays de la Loire pour développer la pratique sportive sur les territoires. Après, le sport, c'est une partie de l'action d'un gouvernement. Un premier ministre, il a l'intérieur, il a les affaires étrangères.
Les affaires régaliennes.
Voilà, il a toutes les affaires régaliennes, les affaires sociales, etc. Ouais. Donc, mais en tout cas, les deux, en l'occurrence, sont des passionnés de sport. Et Fillon est un grand sportif parce qu'il avait l'habitude, je ne sais pas s'il a toujours, mais de courir très régulièrement. Ouais.
Passionné de sport automobile aussi.
Et passionné de sport automobile, très engagé autour de l'histoire avec son frère des 24 heures du Mans.
Ouais.
Et donc, pour répondre définitivement à cette question, c'est que, historiquement, nous ne sommes pas une nation sportive. Parce que historiquement, nous sommes une nation qui aime le sport. D'ailleurs, les chiffres le prouvent. C'est le premier secteur d'engagement des Français. 25% des associations sont des associations sportives. 3,5 millions de bénévoles qui consacrent beaucoup de leur week-end au développement de la pratique sportive, et notamment pour les plus jeunes. 60% des Français ont une activité sportive régulière. Donc tous ces chiffres montrent que les Français aiment le sport. En plus, on a des résultats à l'international au regard de notre démographie qui sont plus qu'encourageants. L'objectif du président de la République, que l'on finisse dans le top 5 aux Jeux Olympiques, est franchement un objectif atteignable au regard des résultats des années 2022-2023. Mais on n'est pas une nation sportive pour deux raisons. La première, c'est qu'on subit tous un héritage prégnant de Descartes, qui a voulu toujours opposer le corps et l'esprit, à l'opposé des pays scandinaves, à l'opposé des pays anglo-saxons, mais même de certains pays latins. Et la deuxième raison, qui est d'ailleurs liée à la première, c'est que le sport, pendant longtemps en France, n'a pas été au cœur du projet pédagogique, n'a pas été au cœur du projet éducatif. Il suffit de voir notamment la place du sport à l'université, qui historiquement est assez catastrophique. Alors, plein de mesures ont été prises récemment par Amélie Oudéa-Castéra et Sylvie Retailleau pour faire progresser la pratique sportive à l'université. Mais on vient de très loin. 40% des étudiants ne font aucun sport. Et un étudiant sur cinq fait du sport à l'université.
Et c'est le décrochage. C'est le décrochage qu'on voit.
Voilà. Et donc, la nation sportive, elle se crée dès le départ, c'est-à-dire à l'école, d'où l'idée de la généralisation des 30 minutes en primaire, l'ouverture de 2 heures supplémentaires en ce moment à titre expérimental dans les collèges en lien avec le mouvement sportif, mais avec une volonté de les généraliser en 2026. J'invite tout le monde à relire le discours du président de la République le 5 septembre dernier, sur le sujet où il mettait en exergue une vraie politique sportive à l'école et en disant quelque chose qui me paraît fondamental, on apprend mieux en faisant du sport. Et c'est tellement vrai.
Ouais. Pour vraiment finir le sujet sur ton parcours personnel, avant de vraiment d'aborder pleinement notre sujet du jour, tu as été délégué spécial pour les Jeux Olympiques à la région Île-de-France pendant quasiment 4 ans. Donc, le fait, quasiment 4 ans, on va dire 3 ans et un peu plus, le fait sportif, tu l'as attaqué pleinement en prenant ce poste. Pourquoi avoir décidé de s'investir pleinement dans la vertical sport à ce moment-là? Parce que tu étais plutôt dans la com, tu étais plutôt comme politique, je veux dire, ou directeur de cabinet, enfin, tu étais plutôt au cœur du politique, mais pas forcément sur le sportif. Là, tu prends un poste directement sur le sportif. Pourquoi?
Alors déjà, auprès de Jean-François Lamour, je me suis occupé certes un peu de politique, mais je me suis aussi occupé de beaucoup de dossiers sportifs. Je me rappelle par exemple lui avoir écrit un discours qu'il avait prononcé lors de l'ouverture des Jeux de la Francophonie au Niger devant 40 000 personnes dans un stade, ce qui était assez surprenant parce qu'on était entouré de militaires avec des kalachnikovs, donc c'était assez drôle. Mais donc, je me suis déjà occupé de sport quand j'étais en cabinet ministériel. À la région, j'en remercie d'ailleurs Valérie Pécresse, avec laquelle j'ai eu des désaccords politiques, mais qui m'a confié cette très belle mission, puisque la région est le deuxième financeur public des Jeux après l'État. Et la région est très engagée sur ce sujet, donc on a vraiment bâti une stratégie à laquelle Jean-François Lamour, d'ailleurs, pendant un an, avait participé, avec une équipe, avec Sandra De Genken, qui a été la première femme arbitre d'une finale d'un tournoi du Grand Chelem et qui fait un travail remarquable à la région. On a bâti toute une stratégie pour accompagner les Jeux, à la fois en investissement, la région... à financer de grands investissements des Jeux comme l'Arena Porte de la Chapelle ou le centre aquatique olympique à Ver-sur-Marne, que je vous invite tous à aller voir et à faire soit du kayak ou soit descendre en raft la rivière olympique. C'est une aventure à vivre, je l'ai vécu, c'est plutôt très, très sympa. Mmh. D'après Tony Stanguet, qui s'y connaît en la matière, c'est le plus beau site du monde en termes de rivière olympique et de site de canoë et kayak. Donc voilà, j'ai suivi ces dossiers avec vraiment enthousiasme, avec rigueur, je crois, et en faisant ça non-stop, quasiment. Enfin, j'avais une activité professionnelle en parallèle les trois quarts du temps, mais je me suis vraiment consacré à ce sujet. Du coup, j'ai même écrit un livre sur le sujet quelques temps après.
Paris 2024, un défi français.
Oui, convaincu que les Jeux sont un grand rendez-vous pour le pays. Et donc, c'était passionnant de suivre ce dossier à la région, où la présidente de région me laissait une très grande liberté d'action et j'ai pu défendre beaucoup de sujets. J'ai l'immodestie de penser d'avoir contribué avec d'autres, et notamment avec Jean Castex, qui était à l'époque le délégué interministériel en charge des Jeux, mmh. avant d'être nommé Premier ministre, pour sauver Lancourt, la colline des Lancourt, où il y aura le VTT. Mmh. Puisqu'il y avait au début de l'année 2018 une tentation... De faire ça plutôt à Chamonix qu'en région parisienne. Et pour plein de raisons, on considérait avec Jean que c'était très important de le maintenir à Élancourt. Donc beaucoup mobilisé sur ce sujet comme sur plein d'autres. On avait créé aussi des stages découvertes olympiques pour les élèves de 3e, d'ailleurs que Valérie Pécresse a continué dans les années qui ont suivi. Non, c'était une belle expérience.
Ouais. Je vais être un peu direct. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans l'action publique, politique, en faveur du sport ? Est-ce que tu as l'impression qu'on peut vraiment avoir de l'impact ?
Alors déjà, je crois que ce qui me fait kiffer aujourd'hui, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 15 ans, mais un jour, un de mes meilleurs amis m'a dit « Finalement, t'aimes pas la politique, mais t'aimes les politiques publiques. Mmh. » Et je pense qu'il a raison. J'ai de plus en plus de mal avec la politique au sens rapport de force permanent, etc. En revanche, mener des politiques publiques, et c'est pour ça que je suis très reconnaissant à Mini Oudéa Castera, tu disais en introduction que j'étais le grand patron de la grande cause nationale. Non, le grand patron de la grande cause nationale, c'est Amélie Oudéa-Castéra, mmh. mais qui me délègue beaucoup de choses et avec qui je m'entends très bien et avec qui il est très agréable de travailler. Et cette grande cause, c'est vraiment des politiques publiques. C'est de faire bouger les choses. La grande cause, elle a un effet levier. On y reviendra sans doute dans un instant. Et c'est ça qui me fait triper. Mmh. Et en plus, comme je suis un passionné de l'action publique, que je crois en l'État, que je crois en la République et que je crois en la force du sport pour faire bouger la société. Et la grande cause, c'est son premier job, c'est de valoriser l'héritage immatériel des Jeux. Et son deuxième job, c'est de dire que le sport est un outil efficace pour répondre à plein d'enjeux de notre société en termes d'insertion, en termes d'intégration, en termes de santé publique, d'éducation, mais aussi de culture, d'environnement. Ouais. Donc c'est un magnifique projet qui me mobilise en moyenne 12 heures par jour, 7 jours sur 7, avec une équipe remarquable qui se mobilise beaucoup, avec énormément d'acteurs, d'entreprises, d'associations, de personnalités qui croient aux effets de la grande cause nationale.
Ouais. Donc les politiques publiques, ça fait bouger les choses, ça part d'un constat qu'il faut faire bouger les lignes, ça se mesure aussi une politique publique. Je te propose qu'on aborde un petit peu la genèse de cette grande cause nationale. Pourquoi on a décidé de faire du sport la grande cause nationale en 2024? J'ai peut-être une petite idée, mais peut-être qu'il y a d'autres éléments d'éclairage que tu peux nous apporter.
Non, déjà, c'est une décision qui revient au président de la République, qu'il a prise voilà 2 ans, à l'été 2022. Il y a 2 raisons fondamentales qui expliquent cette décision. 1, évidemment, les Jeux. La dynamique des Jeux. Les Jeux, c'est inspirant, ça donne de l'énergie, ça fait bouger les lignes aussi. Et il était pour nous important, et dans l'esprit du président de la République, de mieux communiquer aux Français les bienfaits du sport, de mieux les promouvoir, et ils sont nombreux. Le sport, c'est important pour la structuration de nos enfants. C'est fondamental en termes de développement osseux, de développement musculaire, de développement cérébral. Il est prouvé scientifiquement que ça donne un meilleur taux de concentration, donc ça a une conséquence directe sur les résultats scolaires. Le sport, c'est important à tous les âges de la vie, pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, y compris en EHPAD. Mmh. Plein d'études le montrent également. Le sport, c'est générateur de liens sociaux dans une société où beaucoup de gens vivent la solitude. Et à tous les âges de la vie, on peut être seul dans la société d'aujourd'hui à 30-40 ans. Alors bien sûr, plus pour le troisième et le quatrième âge, mais le sport génère, c'est sans doute le premier créateur de liens sociaux dans le pays. Et puis tout le monde le sait, on va sans doute en parler, c'est fondamental pour la santé de tous. La deuxième raison, c'est qu'il y a une urgence sanitaire au regard de l'explosion de la sédentarité dans notre pays. Cette sédentarité, elle est due à un double phénomène ces derniers temps. Le premier, c'est la crise du Covid qui a quand même changé nos habitudes de mobilité, de déplacement, notamment par rapport au travail. Mmh. Et la deuxième raison qui est plus structurelle, c'est la révolution digitale que je ne remets absolument pas en cause, que tout le monde se rassure. Mais cette révolution digitale, elle a bouleversé nos modes de vie. Aujourd'hui, on va plus au cinéma, on regarde sur les plateformes, on va plus faire ses courses, on clique. On va plus en cours, on est en distanciel, enfin pour beaucoup, notamment en formation continue. On travaille peut-être plus, mais on va moins sur son lieu de travail parce qu'on travaille de chez soi pour beaucoup. Tout ça est très sympathique. Tout ça, on ne va pas le remettre en cause, mais il est urgent de faire bouger les lignes et de faire bouger les Français, parce que je te donne 3 chiffres qui me viennent immédiatement à l'esprit, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres. 95% de la population adulte est en fragilité sanitaire du fait d'une trop grande sédentarité. Et là, certains qui nous écoutent et qui sont des passionnés de sport comme toi et moi pourraient se dire, là, Vincent Roger, il déconne un peu, parce que 95% des Français, alors que 60% des Français, selon l'INGEM, ont une activité régulière. Ben oui, mais les 2 chiffres sont vrais. C'est-à-dire que 95% des Français sont en fragilité sanitaire du fait de la sédentarité. C'est vrai que 60% d'entre eux font régulièrement du sport, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Mais si vous faites votre footing hebdomadaire, vous êtes quand même sédentaire. Parce que ne pas être sédentaire, c'est bouger tous les jours, au moins 1 demi-heure par jour pour les adultes et 1 heure pour les enfants et les adolescents. C'est faire au moins 2 séances un peu dynamiques, un peu intenses 2 fois par semaine. Et donc, beaucoup d'entre nous, une immense majorité de Français ne sont pas à ce rendez-vous. Deuxième chiffre, 80% de nos adolescents sont en dessous des seuils recommandés par l'OMS en termes d'activité physique et sportive. C'est 1 heure pour les ados, on est très loin du compte. 50% des 6-17 ans sont en précarité sanitaire. 50% sont en précarité sanitaire du fait d'une trop grande addiction aux écrans, plus de 4h30 par jour et moins de 20 minutes d'activité physique et sportive. Quand je vous ai dit ça, je pense que tout le monde a compris qu'il faut bouger. Il y a le professeur Carré, qui est un homme remarquable, qui est un spécialiste mondial de la lutte contre la sédentarité, président du collectif pour une France en forme, qui est un acteur majeur de la grande cause, avec lequel on va organiser sur tout le territoire des journées pour une France en forme, qui dit que aujourd'hui, nos jeunes ont des maladies de vieux. C'est-à-dire qu'il y a des pathologies qui n'apparaissaient pas avant 40, 50 ans, type diabète de type 2, qui apparaissent à 20 ans parce qu'on a des jeunes totalement inactifs et qui ont une vraie précarité sanitaire. Aujourd'hui, un adolescent en moyenne fait 1 minute de plus aux 800 mètres qu'il y a 40 ans. Nos adolescents ont perdu 25% de leur capital cardio-respiratoire en 40 ans. Et on sait... Et toujours le professeur Carré qui a fait une étude qui a été soutenue par le ministère des Sports, on sait qu'on peut inverser la courbe. La mauvaise nouvelle, c'est que les chiffres sont catastrophiques. La bonne nouvelle, c'est qu'en quelques semaines, un adolescent peut récupérer 5% de son capital cardio-respiratoire en faisant 2 séquences de 20 minutes un peu intenses dans une semaine sur 6 semaines. Donc voilà, tout le monde sait qu'on peut faire, et la grande cause, elle a cette ambition.
Ouais. Je ne me rappelle plus quel est le professeur ou le politique qui avait dit « on est face à une bombe sanitaire ».
À retardement.
Alors,
cette phrase est utilisée par beaucoup de monde. Ouais. Je suis incapable de te dire qui est l'auteur historique, mais je pense que Valérie Fourneyrand, dont on parlait tout à l'heure, a dû le dire comme ministre. On est beaucoup à la reprendre parce que c'est vrai. Il y a Régis Joannicot aussi, ancien parlementaire, qui est très actif sur ces sujets, qui est membre aussi du collectif Pour une France en forme. Donc tout au long de l'année, on va vouloir mobiliser les Français autour de la lutte contre la sédentarité, des bienfaits du sport et autour d'un marqueur fort pour les adultes que sont les 30 minutes par jour, parce que c'est simple, parce que c'est fédérateur, parce que comme dit la ministre, ça peut tout changer, et notamment pour son bien-être, pour sa santé, pour ses enfants, avec un double objectif autour de ces 30 minutes qui est comparable à l'histoire des 5 fruits et légumes qui sont devenus une sorte de vieil adage populaire. 5 fruits et légumes par jour, tout le monde le connaît et tout le monde essaye plus ou moins d'y tendre.
Oui.
Notre objectif numéro 1, c'est que d'ici la fin de l'année, tout le monde connaisse que 30 minutes par jour, c'est bon pour soi, pour ses enfants, pour sa santé. Deuxième objectif, c'est que tout le monde essaye d'y tendre. Si ce n'est pas 7 fois par semaine, au moins 4-5 fois par semaine, de faire 30 minutes d'activité physique et sportive par jour.
Et est-ce que c'est la responsabilité de l'État d'opérer cette, cette sensibilisation? Tu vas me dire oui, mais tes leviers d'action, ils sont relativement faibles parce qu'en fait, on est au travail. Est-ce que c'est pas l'employeur qui doit forcer ses employés à faire du sport? On parlait de l'école. Là, c'est un domaine un peu plus régalien, donc on a peut-être plus de leviers. Enfin, non pas imposer, mais faire tendre les Français vers plus de sport n'est pas que de la responsabilité de l'État.
Oui, bien sûr, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, mais l'État a un devoir d'impulsion et la grande cause est cet effet de levier. Déjà, l'État peut donner l'exemple dans ses administrations, donc il y a plein de choses qui sont organisées avec le ministère de la fonction publique, il y a des appels à projets dans les administrations que l'on encourage dans le cadre d'un partenariat entre les deux ministères pour inviter les administrations à développer l'activité physique et sportive en milieu professionnel au sein des différentes fonctions publiques. Il y a le fait que l'État a un rôle majeur pour l'école et pour les universités. Donc ça, quand même, on développe beaucoup de choses suite au projet développé par le président de la République en septembre dernier, que ce soit en termes d'installation de proximité liée à des projets pédagogiques. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur les 2 heures supplémentaires, sur les 30 minutes, voilà. Mais il y a plein de choses qui sont faites. Par exemple, on multiplie par 3 les places de sport-études dans ce pays. Donc ça, c'est l'État. Et c'est son rôle d'impulser les choses. C'est aussi le rôle de l'État de dire qu'au regard de l'explosion des maladies chroniques, des coûts pour la sécurité sociale, que chacun d'entre nous a en lui la possibilité d'utiliser le premier des médicaments en termes de prévention, qui est l'activité physique et sportive. Et tout le monde peut le faire, même des personnes, et surtout, j'allais dire, des personnes en situation de handicap. Une personne en situation de handicap sur 2 ne fait aucune activité physique et sportive. Et il faut qu'on l'on développe, et l'État fait beaucoup de choses dans ce sens, en lien avec notamment l'assurance maladie, avec des expérimentations qui sont faites pour permettre le développement de l'APA, pour permettre la prise en charge de l'APA. On est au début de tout ça, de l'aventure. On a créé une dynamique, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais tous les publics doivent se sentir considérés et tous les publics doivent prendre en compte que vraiment, c'est bien pour eux. Il y a 4 publics cibles dans cette affaire. C'est les publics les plus éloignés de la pratique sportive. La grande cause, en complément des Jeux, elle s'adresse aux Français qui ne s'intéressent pas toujours au sport et qui ne font pas beaucoup de sport. C'est les femmes, avec une double rupture au moment de l'adolescence et au moment de la maternité. Et en plus les femmes sont issues de milieux défavorisés, moins elles font de sport. Donc il y a un vrai problème social. Et le sport peut être un outil fondamental pour l'épanouissement et l'émancipation des femmes à travers le monde. D'ailleurs, on va faire un grand colloque sur le sujet avec le ministère des Affaires étrangères prochainement. Deuxièmement, c'est les étudiants, j'en ai parlé, je donnais les chiffres tout à l'heure. Troisièmement, c'est les personnes en situation de handicap, je viens de te donner le chiffre. Et quatrièmement, c'est les seniors. où 35% d'entre eux ne font aucune activité physique et sportive, et ce qui est, en termes de santé publique, fondamental de faire changer la donne, puisqu'il faut avoir à l'esprit deux chiffres. On perd 80% de sa capacité musculaire à 80 ans. On perd 50% de sa capacité musculaire à 80 ans si on ne fait aucune activité physique et sportive. Et l'essentiel des recours aux urgences pour les seniors, c'est les chutes. Mmh. Et pourquoi il y a chute ? Parce qu'il y a perte d'équilibre. Et pourquoi il y a perte d'équilibre ? Parce qu'il n'y a pas assez d'activité physique et sportive. Et là aussi, là, je parle des mauvaises nouvelles, mais la bonne nouvelle, c'est que l'on sait qu'à tous les âges de la vie, on peut reprendre de l'activité physique et sportive et on peut progresser en masse musculaire, y compris après 80 ans. Mmh. On va avoir une explosion du nombre des 80 ans dans notre pays à partir de 2026 avec l'arrivée des baby-boomers à cet âge-là. On n'aura jamais eu autant de personnes qui ont plus de 80 ans. C'est un devoir de les inviter à faire de l'activité physique et sportive. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est Robert Marchand. Mmh. Je ne sais pas si tu te souviens de ce monsieur qui est décédé il y a quelque temps, à 107 ans, mais qui allait plus vite en vélo à 103 ans. Il est rentré dans le Guinness Book qu'à 100 ans. Mmh. Donc, voyez, donc tu vois, c'est porteur d'espérance. Mmh. Même à 100 ans, à 103 ans, on peut aller plus vite qu'à 100 ans.
J'en profite aussi pour resaluer de nouveau Valérie Fournon, qui avait un peu lancé le sport sur ordonnance.
Oui.
Et qui, en effet, le premier médicament, je rebondissais sur ça, était sans doute le sport pour bien des, bien des mots, M-A-U-X. Là, encore une fois, on a dressé un constat, et t'as aussi fait un éclairage sur des motifs d'optimisme, parce qu'on peut changer les choses avec des petites habitudes. On parlait du fait que ces petites habitudes, l'État n'avait pas le monopole de ces petites habitudes, c'est la responsabilité de chacun, des entreprises, des associations, de l'école. Et tu as aussi parlé des objectifs, mais juste avant de te voir, j'étais en discussion avec Christophe Lepetit du CDES, que tu connais peut-être.
De nom.
Et on se posait la question de l'attribution. On posait la question de l'attribution des grands événements sportifs ou des politiques publiques sur le fait qu'en effet, les Français vont un petit peu plus se mettre au sport. Comment tu vas réussir à mesurer l'impact de tout ce que tu mets en place sur, sur la pratique des Français ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est un vœu pieux ? Et puis en fait, non, on est plutôt sur donner l'impulsion et faire ce que tu disais sur les 5 fruits et légumes, de dire bon, c'est un peu top of mind, comme dirait un marketeur. Comment tu vas faire pour t'assurer de la réussite de cette mission?
Alors, on a plusieurs outils. Le premier qu'on a créé avec notre partenaire du CIC en partenariat avec Le Parisien et Opinion Way, c'est un baromètre des 30 minutes pour voir comment ça prend progressivement dans l'opinion. Et les chiffres du mois de janvier étaient très encourageants. C'est-à-dire que déjà, beaucoup de Français étaient au courant de la grande cause. C'était pas une majorité, mais on est en janvier. Hein. Je rappelle qu'on était en janvier. Le prochain sort la semaine prochaine dans le Parisien. Et donc, tous les mois, on va mesurer l'impact sur les 30 minutes dans la population française et sur les propositions de la grande cause. Deuxièmement, il y a un travail qui est permanent, qui est fait par l'INJEP, qui est une source incroyable de données, de renseignements sur la pratique sportive des Français. Donc, on a les chiffres au fur et à mesure du nombre de pratiquants, des investissements, des équipements, de l'évolution aussi de la pratique sportive, parce que ce qu'il faut bien prendre en compte, et la grande cause le prend en compte, et les différents plans Macron d'infrastructure le prennent aussi en compte, c'est qu'il y a une évolution de la pratique sportive. Les Français font plus de courses connectées, font plus ça en indépendant. Bien évidemment, c'est mieux d'aller en club, et nous, on encourage, notamment avec le dispositif passeport, l'inscription en club, l'encadrement des clubs est assez exceptionnel, notamment pour les plus jeunes. Mais d'ailleurs, les fédérations s'adaptent à cette évolution de la pratique sportive. Et c'est ça aussi qu'il faut mesurer. Il ne faut pas avoir une vision de la pratique sportive où tout se fait dans le gymnase. Beaucoup de choses se font dans le gymnase, y compris bien évidemment à l'école. Mais il y a d'autres lieux désormais, il y a d'autres pratiques, il y a d'autres... Et nous, dans le cadre de la grande cause, on a vraiment cette volonté de multiplier les exemples pour donner envie en Français de faire du sport dans des lieux où ils n'ont pas toujours l'habitude de le faire. Alors, il y a bien évidemment l'école où là, Vraiment, il y a une priorité des priorités, justement pour construire la nation sportive. Mais par exemple, on va développer, tu en parlais tout à l'heure, le sport en entreprise, ça c'est fondamental. Aujourd'hui, 13% des entreprises développent la pratique sportive pour leurs collaborateurs. Nous, on veut doubler ce chiffre dans les deux ans à venir. Donc on organise différentes choses dans le cadre de la Grande Cause pour justement sensibiliser les entreprises. Il y a une plateforme qui a été créée en partenariat avec le MEDEF pour encourager la pratique sportive en milieu professionnel. Comme je te le disais tout à l'heure, les administrations donnent aussi l'exemple. Mais aussi, on va encourager les Français à faire du sport en famille. On va créer avec la Fédération française d'athlétisme et avec nos partenaires de Sport 2000 et du Crédit Mutuel une course inclusive, familiale, populaire, qui va être créée de mémoire autour du 5 octobre sur différentes villes et qui va être un peu à l'image de la Royal Run au Danemark. Je ne sais pas si tu connais cette course. Moi, je l'ai vue à Copenhague, qui est une course très populaire au Danemark, qui regroupe plus de 150 000 personnes, qui à l'échelle du Danemark, c'est quand même assez phénoménal, sur 4-5 villes. Et tout le monde court ensemble sur des petites distances et tu peux avoir 4 générations avec l'arrière-grand-mère dans un fauteuil, le petit dernier dans la poussette et tout le monde court, alors plutôt marche. Et donc ça, on va le développer avec vraiment la logique de le pérenniser dans une logique de donner un exemple très concret de ce que l'on peut faire en famille, certes autour d'un événement qui est organisé, mais que les gens peuvent développer, que les collectivités dont les collectivités locales peuvent s'emparer. Et il y a plein de choses comme ça qu'on va faire pendant la Grande Cause. Toujours cette logique d'effet levier.
Ouais. Je pose souvent cette question. Alors, j'ai un truchement très sport business et très économique dans le podcast, mais je pose souvent cette question, notamment aux entrepreneurs, mais aussi à certains dirigeants politiques. Comme je te le dis, j'ai reçu Valérie Fournéon, j'ai reçu aussi son nom m'échappe, mais c'est pas bien, l'ancien ministre des Sports de Nicolas Sarkozy, rugbyman, Bernard Laporte. Qu'est-ce qui pourrait tout faire foirer? C'est un peu la question que je pose. Et du coup, derrière ça, c'est qu'est-ce qui te rend un peu pessimiste et donc qu'est-ce qui te rend aussi optimiste, hein? Je pose la question sur les deux aspects dans la réussite de ta mission. Donc, tu es délégué interministériel.
Alors, ministériel,
pardon.
Mais c'est un volet interministériel. Voilà. Mais je ne suis rattaché qu'à une personne et ça a été volontaire auprès d'Amélie Oudéa-Castéra. Mais on travaille avec tous les ministères pour le développement de cette grande cause.
Ouais. Et donc, ma question, c'est, je vais la poser un peu plus poliment. Qu'est-ce qui te rend optimiste par rapport à cette mission et qu'est-ce qui te rend pessimiste, craintif, des éléments de vigilance que tu aurais?
Non, il faut pas. Moi, alors, je suis pas du tout craintif et je suis pas du tout pessimiste. Il faut simplement être humble. Quand on a une mission, on peut avoir de l'enthousiasme, mais un peu d'humilité, c'est important aussi. Donc, je suis humble dans ma mission. Moi, je sais pas quel résultat à la fin des fins ça provoquera dans le pays. Il y a plein d'éléments qui ne dépendent pas que de la ministre ou de moi. Mais on est vraiment optimiste parce que déjà, on est dans une année historique. 2024 doit être un tournant quant à la place du sport dans notre société. La Grande Cause y contribue. D'ailleurs, la Grande Cause et les Jeux sont complémentaires. Les premiers donnent de l'élan, la seconde étoffe l'héritage immatériel des Jeux. Et donc, on travaille de concert. Moi, je travaille régulièrement avec Romain Lachance, directeur de l'engagement de Paris 2024, avec Marie Barzac, directrice de l'héritage, avec Anne Descamps, directrice de la communication. On a des échanges réguliers. Ils font un grand rendez-vous le 14 mars sur l'héritage des Jeux. Ils vont donner la parole à la ministre. Ils m'ont confié un atelier sur le sujet. Donc, c'est vraiment un travail de concert. Donc, moi, je suis dans une dynamique depuis 7 ans, que ce soit à travers ma mission à la région sur les Jeux, que ce soit dans l'écriture de mon livre ou que ce soit dans ma mission avec Amélie. Je crois fondamentalement en cette année pour bouger les choses, pour changer les choses. Donc je m'interroge pas. Je suis dans l'action, j'y crois. J'ai une chance extraordinaire de me lever tous les matins et de faire quelque chose qui me passionne, avec une ministre pour laquelle j'ai de l'amitié et une estime intellectuelle. Donc tout va bien, mais moi je crois qu'on va faire bouger les lignes. Je suis pas capable de te dire jusqu'où, parce que ça appartiendra à beaucoup de gens, mais je crois qu'on va vraiment faire bouger les choses.
Ouais. Tu pourrais nous expliquer un peu quelle est la semaine type d'un Vincent Roger, de délégué ministériel à la Grande Cause nationale? Ça ressemble à quoi?
Alors, il se lève généralement vers 6h30, il sort ouais. son chien. Enfin, je ne vais pas parler de moi à la troisième personne. voilà, je fais comme tous les Français, je prends ma douche, un petit déj et je vais au bureau. Il est 8h15, 8h30. J'en sors pas avant 21h, 21h30. Et généralement, je dîne avec mon épouse qui a la gentillesse de m'attendre et parfois mes enfants, mais moins. Et je sors mon chien et après, je suis un peu fatigué. Et j'ai toujours une petite heure de checker, comme beaucoup d'entre nous, des mails. Voilà, mais c'est assez intense. Et c'est le week-end, je cours un peu, je m'occupe un peu de ma famille, mais je bosse beaucoup aussi le week-end.
Mais du coup, entre ces 8h30...
Mais je suis tout sauf à plaindre. Hein.
C'est pas le propos, en effet. Entre ce 8h30 arrivé au bureau et ce 21h, 21h30 départ du bureau, tu rencontres... des homologues dans notre ministère, c'est quoi un peu les stakeholders?
Alors, c'est déjà des échanges avec des gens très engagés comme moi au ministère, que ce soit à la direction des sports avec Fabienne Bourdet et son équipe, que ce soit le cabinet qui est très investi, le cabinet de la ministre avec Thomas Caillot en chef d'équipe, la ministre elle-même que je vois au moins 3-4 fois par semaine pour des rendez-vous très, très réguliers. Après, effectivement, c'est des acteurs d'autres ministères, c'est des acteurs de Paris 2024, c'est les partenaires de la Grande Cause. J'ai une cinquantaine de partenaires entre les associations type la Croix-Rouge française, le groupe SOS, le groupe et des entreprises, le groupe L'Oréal, le Crédit Mutuel. Voilà, donc je gère une communauté de la Grande Cause. C'est des acteurs du mouvement sportif très engagés, à la fois des fédérations, par exemple la Fédération française de handball nous a permis de réaliser un film pour promouvoir les 30 minutes avec l'équipe de France masculine. On va le faire la même chose avec l'équipe de France féminine. D'autres fédérations vont nous rejoindre, donc on va avoir une collection des équipes nationales qui vont promouvoir les 30 minutes auprès des Français dans une logique de comparer ce que fait un grand sportif à ce que fait un Français au quotidien. Donc voilà, c'est une multitude de choses. Il y a aussi une multitude de réunions avec les acteurs de la communication gouvernementale, le SIG, qui est le service d'information du gouvernement, qui est très impliqué dans la Grande Cause, la direction de la com du ministère, avec Maria Brady et son équipe qui sont surmobilisés pour la Grande Cause. Voilà, c'est 10 réunions par jour, c'est 400 à 500 mails par jour. J'en ai beaucoup en retard et je m'excuse auprès de ceux qui nous écoutent et qui auraient des mails de retard me concernant. Voilà, mais c'est passionnant.
Ouais. Les précédentes grandes causes nationales, est-ce que tu pourrais nous les citer?
Alors en 2023, c'était le mentorat. Sauf erreur de ma part, en 2022, c'était la lecture. Et il y a une grande cause nationale sur les doubles quinquennats, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes.
Tout à fait. Est-ce que tu as pu rencontrer les personnes, tes homologues, qui avaient géré ces grandes causes nationales?
Alors, pour être très franc, je ne suis pas sûr qu'à chaque fois, il y ait un délégué ministériel en charge du dossier. Il faut y voir aucune immodestie de ma part et de celle de la ministre, mais cette grande cause se situe dans un moment historique où elle a des moyens que n'ont pas toujours eu les grandes causes. Je mets à part la grande cause du quinquennat qui a beaucoup de moyens et sur lequel le président de la République, les premiers ministres successifs, les ministres concernés successifs sont très mobilisés. Mais pour être franc, j'ai plus de moyens que la personne qui s'est occupée du mentorat.
Oui.
Parce que voilà, on est dans une année avec les Jeux, avec ce tournant historique, ce besoin de santé publique aussi, qui fait que j'ai une équipe dédiée et quelques moyens.
Ok. On va arriver sur les questions de la fin. Juste avant, je voulais parler de ton ouvrage. Le grand défi français. Pourquoi c'est un grand défi français, Paris 2024?
Parce que déjà, c'est un rendez-vous séculaire. La dernière fois, c'était il y a 100 ans. Que deuxièmement, c'est la première fois qu'on accueille les Jeux paralympiques dans notre pays. Donc déjà, voilà. Donc il y a un défi français. Un, parce qu'il faut rassembler nos compatriotes autour de l'organisation des Jeux et de la réussite des Jeux. en termes d'animation des territoires. Beaucoup de choses sont faites sous l'impulsion de la ministre et du gouvernement en général pour que tous les Français se sentent concernés. Les zones rurales, les quartiers prioritaires de la ville, que tous les âges se sentent concernés. C'est pour ça qu'on a mis en place une billetterie populaire en offrant des places à beaucoup de personnes, et notamment des personnes issues de milieux défavorisés ou à des fonctionnaires exemplaires liés à l'éducation ou à la police nationale ou à l'armée. Voilà, il y a une vraie volonté de rassembler les Français. Et derrière ça, il y a le fait que les valeurs de l'olympisme, les valeurs du sport, à mes yeux et aux yeux de beaucoup, se conjuguent parfaitement bien avec les valeurs de la République. Et on voit bien qu'on est parfois un pays qui est dans le doute, qui est parfois... il y a plein de sociologues qui ont parlé de ça, beaucoup mieux que moi, mais il y a un auteur qui a parlé récemment d'un archipel français. Eh bien, les Jeux, c'est peut-être un moment où on peut rassembler la nation autour de belles valeurs, autour du plus grand événement mondial, autour de nos sportifs, mais autour aussi d'un héritage, autour aussi d'un message à adresser pour le monde. Donc c'est ça, cette somme de défis. La ministre dit souvent des Jeux réussis, c'est une bonne organisation, premier défi. Mmh. On a déjà une première médaille d'or, c'est le travail de la Solideo. Mmh. Avec,
qui a livré les ouvrages.
Qui a livré les ouvrages en temps et en heure, dans le respect des moyens mis à sa disposition. Et c'est le symbole d'un certain génie français, avec nos compagnons du devoir, avec nos compagnons du BTP, avec nos ingénieurs. On a fait en 5 ans ce que d'habitude on fait en 20 ans. Ça doit être une fierté française. Les chantiers de la Solideo étaient représentés 85% des départements français. Il y avait au moins une entreprise, des entreprises sur 85% de nos départements qui étaient représentés. C'est quand même extraordinaire. C'est un succès français. On n'en parle pas assez. On est quand même dans un pays où on ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais tout ce qui arrive bien à l'heure et qui est extraordinaire, on n'en parle pas. Là, ça va être l'occasion dans les mois à venir d'en parler. Le deuxième défi, c'est bien sûr la performance. Je crois que, je le disais tout à l'heure, que l'objectif du président de la République du top 5 est totalement tenable au regard notamment des résultats. Puis on a fait beaucoup d'efforts dans la préparation avec le travail de Claude Onesta. Avec,
qui est patron de la performance à l'ANS.
Le programme Ambition Bleue de l'ANS, avec une mobilisation sans précédent en termes de préparation, de recrutement de coachs internationaux, de prise en compte de la data pour préparer les sportifs, d'accompagnement médical, d'accompagnement mental, d'accompagnement post-jeu pour assurer un suivi en termes professionnels à ces sportifs de haut niveau qui ne gagnent pas tous beaucoup d'argent. Ils n'ont pas les salaires des footballeurs pour beaucoup d'entre eux, donc on devrait y arriver. Et puis le troisième, c'est l'héritage, et le dernier, c'est la fête populaire. Donc ces quatre piliers, la ministre parle de carré magique. C'est ces quatre défis, on va les réussir. Et il y en a un autre, je l'évoquais rapidement, c'est le message au monde. Est-ce qu'on envoie simplement des cartes postales iconiques des Jeux de Paris 2024 qui vont être extraordinaires? Ou est-ce qu'on envoie un message au monde d'une France innovante, d'une France généreuse, d'une France qui répond aux enjeux fondamentaux du XXIe siècle en termes de lutte contre les discriminations, de la place des femmes dans la société, des défis climatiques et des défis environnementaux? C'est ça aussi un des enjeux des Jeux.
Écoute, on va terminer sur ça, mais je vais quand même poser ma dernière question, qui est un peu une question piège. C'est, t'aimerais entendre qui dans un podcast comme celui-ci? Et donc, ça veut dire qui vais-je inviter ou avec qui tu vas réussir à mettre en relation pour le prochain invité?
Je sais pas, Jean-François Lamour, il y a plein de gens qui peuvent me venir à l'esprit, mais je veux pas m'engager pour eux avant d'en demander.
Dont le récit, dont le parcours, dont la trajectoire sont à ce point intéressante que ça pourrait intéresser des gens pendant 50 minutes ou une heure d'écoute.
Oh bah, des gens dont le récit pendant 50 minutes pourrait intéresser tes fidèles auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, j'en connais beaucoup, à commencer par la ministre.
Beaucoup de temps sans doute.
Voilà, c'est pour ça que je ne m'engage pas pour elle, parce que je sais que son agenda est explosif, parce que être ministre des Jeux dans la période actuelle, c'est aussi... On parlait de mon modeste emploi du temps, mais le sien, il est encore plus dense, beaucoup plus dense que le mien.
Ouais. Ok, ça me va, Jean-François Lamour, avec grand plaisir.
Je lui en parle, promis.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Dream Team, j'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.